Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Les autres. Du Trisac. L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Ah oui, déjà, hein, jeudi 23 septembre 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Je vais vous dire quelque chose de ce qui s'en vient à l'émission. Là, pis c'est gratuit en plus, mais j'en reviens pas. Je ne sais pas comment on arrive à vous offrir ce genre d'émission-là gratuitement. À 12h15, on aura avec nous le président désigné de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Pas juste du Québec, là, du Canada. Comment ça se passe ailleurs? Parce que là, Christian Dubé veut rendre les infirmières heureuses au Québec. Est-ce qu'elles sont malheureuses dans le reste du Canada? Est-ce qu'elles sont malheureuses dans le système de santé anglophone au Québec? On va vous donner plus de détails parce qu'il y a des affaires qui se précisent. Puis c'est une histoire d'égo où on veut pas admettre que les Anglos gèrent mieux leur système de santé que nous autres. Par exemple, les infirmières du côté des Anglos, à Royal Vic par exemple, ont des horaires de 12 heures. Pas de temps supplémentaire obligatoire. Rien de ça. Et elles sont heureuses. Peut-être qu'il faudrait aller voir de ce côté-là, avoir l'humilité de voir ce qui marche au Jewish, où Sophie a eu une excellente expérience de service à la clientèle, mais quand même, il n'y a pas autant de problèmes dans le système anglophone que francophone de toute évidence. D'ailleurs, à 11h15, on aura avec nous Brigitte Pétry, qui est présidente du syndicat des professionnels en soins de Montérégie Centre, c'est affilié à la FIC, oui, encore les infirmières, parce que on m'a envoyé une décision du tribunal administratif du travail. Le juge administratif Guy Blanchet, qu'on salue, je sais pas s'il dort encore aujourd'hui, qui a ordonné à des infirmières de cesser d'effectuer du temps supplémentaire obligatoire lors du quart de nuit du 23 septembre 2021. Cette nuit, ça constitue un moyen de pression illégal. Donc, on ordonne aux infirmières œuvrant l'unité de natalité de l'hôpital Pierre Boucher, membre de la FIC, le syndicat, de cesser immédiatement de refuser de façon concertée d'effectuer du temps supplémentaire obligatoire pour le quart de nuit du 23 décembre 2021. Ça veut dire qu'il y a un juge qui s'est levé le cul cette nuit pour dire, vous autres, les infirmières, on vous oblige à faire un autre 8 heures obligatoire. C'est extraordinaire. Le gestionnaire qui a pas prévu d'avoir des infirmières suffisamment pour donner du service aux patients, lui, est-ce qu'on l'oblige à être debout la nuit puis le jour? Est-ce qu'on l'oblige à faire les horaires de 16 heures? On va revenir sur cette question-là à 11h15. Monsieur Dubé devrait peut-être lire ça, là, cette décision de Guy Blanchet, juge administratif. Lui, Guy Blanchet, là, je veux qu'il fasse un autre 8 heures. Je veux qu'il fasse son 8 heures, s'il fait un 8 heures, puis un autre 8 heures. Puis on va voir si ses décisions sont aussi éclairées quand ça va faire 14 heures qu'il est à la job. Ça n'a juste plus d'allure. Voilà, ailleurs, pour commencer cette émission, on va aller à Lac-Mégantic avec Robert Bellefleur, qui est porte-parole de la Coalition des citoyens de Lac-Mégantic. Ce que j'ai besoin de vous rappeler, que le 6 juillet 2013, 47 personnes mouraient. Ça a causé plus d'1 milliard de dollars en dommages. Tout ça parce qu'on a oublié de mettre les freins sur un train. Et là, il y a un procès qui est en cours avec nous. Monsieur Bellefleur, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Dutourin.
D'abord, Thomas Harding, là, le mécanicien de la locomotive impliqué dans la tragédie, ça a été le premier témoin. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, qu'est-ce qu'on cherche à savoir. Là?
Le témoignage de monsieur Harding hier, en tout cas, moi, m'a surpris beaucoup parce qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, carrément, du fait que, écoutez, monsieur Harding avait été acquitté en 2019 d'accusation au criminel de négligence criminelle, là, ayant entraîné la mort. Il avait été acquitté par un jury. Hier, l'avocat du CP a vraiment orchestré là, un filet là, pour le coincer et lui faire avouer qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité ferroviaire de sa compagnie. J'ai trouvé ça aberrant qu'on refasse le procès de M. Harding alors que c'est le procès du CP qu'on fait actuellement. Là.
Ouais.
Et, parce que l'histoire des freins, là, c'est une vraie aberration. Là. Personne ne s'entend sur le nombre de freins requis. Là.
Ouais, il n'avait mis sept. Il n'avait mis sept au lieu de neuf. Et M. Harding a aussi admis avoir fait une fausse déclaration au policier à qui il avait dit avoir respecté la règle du 10%. Alors, pour les freins, justement, il n'avait mis sept en fonction plutôt que le neuf.
Ben, faut se rappeler que c'est au lendemain de la tragédie. Et M. Harding avait même enfilé une combinaison de pompiers retiré volontairement 7 à 8 wagons dans les flammes. Il avait risqué sa vie. Il était ébranlé. On l'a interrogé. Dans quel contexte on l'a interrogé? Quel état d'âme il avait? Comment pouvait-il donner des informations précises sur ce qu'il avait fait
auparavant? Êtes-vous en train de nous dire que Thomas Harding est en train de devenir le bouc émissaire du CP?
Effectivement. Regardez, vous parliez de neuf freins. Dans le règlement de la sécurité ferroviaire, c'est à marquer simplement la phrase suivante, le nombre de freins suffisant. Donc, c'était aux compagnies elles-mêmes à déterminer le nombre de freins. Le CP mettait neuf freins parce que c'est la règle du 10 freins pour un convoi de 72 wagons plus 2. Alors, il s'était basé là-dessus. Mais Stephen Canaham, l'expert qui a été amené à la barre au procès criminel, lui a identifié qu'on avait pris, je pense que c'était 12 freins. Et le BST, par la suite, dans son rapport sur les accidents, a dit que ça en aurait pas au moins 17, si c'est pas 20.
Ah oui.
Parce que, donc...
Fait que ça n'a aucune importance.
C'est pas clair, là.
Que M. Harding en ait mis 7 ou 9, ça n'a plus d'importance, c'était insuffisant de toute façon. Alors, ce recours civil intenté contre le Canadien Pacifique, M. Bellefleur, là, quel est le but de ce recours-là?
Le but, c'est de vraiment, là, le CP est la seule compagnie ferroviaire, la seule compagnie là de l'ensemble de tous les acteurs reliés à ce contrat de transport de pétrole-là. Là, on parle des constructeurs de locomotives, des propriétaires des wagons. Il y en avait 24 incluant le CP. Les 23 ont souscrit au fonds d'indemnisation des victimes pour éviter d'être poursuivis. Parce que c'est les avocats américains, là, je pense que c'est le bureau de Mayflower, un des plus gros bureaux d'avocats de New York, qui avait le dossier en main. Fait que les compagnies ont eu peur de se faire poursuivre aux États-Unis.
Mm-hmm.
Et donc, ont contribué pour... Et se sont placés à l'abri des tribunaux. Même le Canada, a versé 75 millions au fonds d'indemnisation des victimes pour pas être poursuivi. Seul le CP ne l'a pas fait. Et il prétend qu'il n'y a rien à voir avec cet accident-là, qu'il est blanc comme neige, que l'ADN, que la sécurité de l'ADN de sa compagnie. Écoutez, regardez, là, ce qu'on tente de prouver, c'est que oui, effectivement, il a joué un rôle. Lequel, je ne le sais pas. C'est ce que le procès va déterminer. Mais sûr et certain, l'évaluation des risques de ce convoi-là a mal été évalué par quelqu'un.
Ouais. Mais les Canadiens Pacifiques, on le sait, sont très, très sympathiques. Hein? Ils sont très ouverts aux citoyens. Là. Ils sont pas arrogants ni baveux d'aucune façon. Malgré ça, M. Bellefleur, la théorie des procureurs qui vous représentent, là, on dit que le CP aurait choisi la voie ferrée de la Montreal, comment ça s'appelle, Maine, la MMA, plutôt que celle du CN, pourtant de classe 1, dans le but de maximiser ses profits et d'obtenir un contrat exclusif de transport du pétrole de Bakken à partir du Dakota du Nord jusqu'au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ça que vous essayez de prouver, là, que le CP a utilisé des voies ferrées qui n'étaient pas à la hauteur en termes de sécurité.
C'est ça. Le CP avait deux options. La MMA, qui était un raccourci parce qu'on sauvait 160 ou 180 000, parce que c'était en 1000 là, au niveau ferroviaire.
Ouais.
Donc, un trajet plus court, une compagnie qui coûtait moins cher, ou bien son seul concurrent, le CN, qui lui aurait chargé beaucoup plus cher.
Et est-ce que la voie du CN passait par la ville aussi?
Non, la voie du CN passe par allonge l'autoroute 20, Marimouski, Pouliguamouk et Témiscouata pour aller rejoindre Saint John. Donc, c'était un détour, mais c'était sur une ligne ferroviaire de classe 1 beaucoup plus sécuritaire que ce que la MMA. Imaginez, la MMA, là, le train devait ralentir dans sa section à 10 000 à l'heure parce que les rails étaient complètement rongés.
Mm-hmm. Ouais, ça a
on
été...
marchait sur le beam, là. Pas ouais. sur le champignon, sur le beam.
Ouais. Ça a été la Montreal Main and Atlantic, le MMA, qui a fait faillite, hein, qui est disparu, finalement.
Effectivement, a fait faillite. Je voulais rappeler aussi que M. Harding, lorsqu'on l'a jugé, je pense, hier, on a voulu refaire son procès, mais je voulais porter à votre attention qu'il avait déjà été averti et on lui... Parce que M. Harding, auparavant, mettait des plus trop de freins. Il mettait les freins automatiques sur l'ensemble du convoi à chaque fois. Et ça retardait le départ le lendemain des Américains lorsqu'ils reprenaient le train. Donc, on lui interdisait de mettre les freins automatiques. Donc, je suis pas sûr que c'était un homme négligent.
Ah oui. Est-ce que le CP a présenté ses excuses pour sa gestion ou ses choix et pour les 47 morts à Lac-Mégantic? Est-ce que le CP a présenté ses excuses à quelqu'un quelque part?
Jamais. Le CP se place au-dessus de toute responsabilité en matière de négligence. Il prône même là, qu'il est un exemple nord-américain. Mmh. Alors qu'on sait qu'un de ses trains, en décembre 2019, à Field, en Alberta, un train de céréales stationné dans la voie, dans une pente, sur des freins à air, a dévalé et a tué les trois conducteurs.
Ah oui.
Alors, écoutez,
ouais.
Regardez... On est dans une guerre, je pense, où le CP veut carrément laver sa réputation là, à ce niveau-là. Puis nous, on pense que je ne cherche pas à incriminer le CP, mais il a sûrement joué un rôle avec Wolf Fuel et Irving au niveau du choix préférentiel de la MMA.
Ouais.
C'est lui la facture là, totale du transport qui est dans l'île d'Anne-Marie Saint-Cerny qui est vraiment reproduite. C'est le CP qui a assumé l'entièreté de la facture, qui a reçu le chèque et qui a payé ses sous-traitants par la suite.
C'est quoi? Il y a combien de signataires là, à ce recours-là, M. Bellefleur?
J'ai posé la question hier à M. Maître La Rochelle, on est 5 000.
5 000, hein? Est-ce que vous avez une idée des procédures judiciaires à venir? Là? Qui va être appelé à témoigner? Combien de temps ça va durer?
Il y a 130 témoins qui vont être assignés. Écoutez, au niveau du CP, là, ils ont je pense que c'est 7 ou 8 avocats. Ah. Le gouvernement en a 4, le recours collectif en a 3. Il va y avoir 130 témoins d'assignés, puis une dizaine ou une douzaine d'experts qui vont venir témoigner. Ça va durer 7 mois.
Hey.
Alors, d'ici à la fin 2021, c'est les demandeurs qui déposent la preuve.
Le CP a sorti ses gros canons, là. Veut rien reconnaître, veut rien payer, là. Veut pas vous aider.
Saviez-vous que l'avocat du CP est Maître Guy Pratt, qui est le meilleur plaideur au Canada, que c'est lui qui a défendu Jean Chrétien lors de
la poursuite? Ça vous prend des contacts, M. Bellefleur? Vous avez pas de contacts, c'est ça qui arrive. On est une gang de tout nus, on n'a pas de contacts, on connaît pas les meilleurs dans chaque domaine, les meilleurs ou les pires. Mais tu sais, ça, c'est... vous avez dit avant qu'on se quitte, M. Bellefleur, vous avez dit récemment que le gouvernement fédéral est incompétent. On sait que là, vous avez pour la voie de contournement, là, ça passe. J'ai parlé à votre mairesse récemment, ça passe encore dans la ville, hein?
Ben oui, dans toutes les. Toutes les nuits, moi, je me fais réveiller vers 2 heures, puis souvent vers 6 heures, par des convois qui transportent des matières dangereuses. Là, ça passe à 1000 pieds de ma maison. Ma maison tremble quasiment. Les trains sont beaucoup plus longs, beaucoup plus lourds. Écoutez, il n'y a rien qui a changé à Lac-Mégantic. Ce qui passe, elle est 10 fois plus dangereux que ce qui passait.
Extraordinaire.
Heureusement, les rails, l'an dernier, ont été réparés à Lac-Mégantic suite à une mise en demeure qu'on avait adressée au ministre Garneau.
Le compétent, oui. Avez-vous vu...
Ça a pris 7 ans avant qu'il répare les rails devant chez moi. C'est du privac.
C'était cœur, hein? Marc Garneau, c'est
vraiment
un incompétent, là, tu sais. Et c'est la mairesse qui me disait qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien fait en 5 ans. Et là, tout à coup, quand vous avez commencé à le brasser un peu, là, tout à coup, il s'est levé, puis là, il fait réparer les voies ferrées.
C'est ça. Et la voie de contournement, on nous le promet pour 2023, c'est encore là une aberration. Les terrains ne sont même pas acquis, les propriétaires n'ont même pas reçu d'offres. Les plans des devis ne sont même pas à l'étape d'élaboration. Écoutez, on nous rit à pleine face, là. Est-ce qu'on veut nous... Probablement qu'on voulait annoncer ça en 2023 là, pour l'élection, mais là, on a devancé l'élection, donc là, on sera dans la prochaine élection, je pense.
Ouais. Là, on va voir là, si Omar Gabra va être encore le ministre des Transports, mais lui, vous l'avez pas vu non plus, là, pas une fois.
Il est passé par la Mégantic en vitesse.
Il a klaxonné.
Pardon?
Il a klaxonné.
C'est ça. Non, il avait annoncé des subventions à l'aéroport Trudeau à Montréal. Il descendait pour faire la même chose à Jean Lesage à Québec. Fait qu'il a fait un petit détour d'une demi-heure à Mégantic pour saluer la mairesse, puis dire qu'il était derrière elle, puis il est reparti.
Ouais. En conclusion, qu'est-ce que vous souhaitez entendre? Parce que là, vous avez les gros canons du Canadien Pacifique qui veut rien payer, rien reconnaître comme responsabilité dans cette tragédie de 2013. On est rendu en 2021. Il y en a qui se traînent les pieds là-dedans. Il y en a qui prennent pas leur responsabilité.
Ouais. Ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on nous a toujours refusé, suite à la tragédie de Lac Mégantic, 47 morts, à centre-ville, toujours détruit la tenue d'une commission d'enquête publique indépendante. Tous les gouvernements se sont objectés à ça. Ce qu'on souhaite, c'est que le procès actuel au civil, là, au niveau du CP, au moins nous apprenne des choses sur, pas juste Tom Harding, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, mais à partir du Dakota, qu'est-ce qui s'est passé avec ce train-là, comment il a été chargé, avec quoi il transportait, quel genre de... C'est quoi les acteurs de ça? On veut apprendre, parce que comment voulez-vous faire un deuil quand t'es père, mère ou conjoint? Quand tu veux faire un deuil quand on te dit même pas ce qui s'est passé réellement?
Ouais.
Qui sont les responsables? Quelles sont les causes? Quels sont les facteurs? Dans quelles circonstances? On te le dit pas, on te le cache.
47 morts, hein? Il y a $1 milliard, c'est après, là, mais d'abord et avant tout, 47 morts. Faudrait surtout pas l'oublier.
C'est ça. En tout cas, nous, on est, ce à quoi on assiste, c'est qu'on, les gouvernements, les compagnies tentent de camoufler leurs erreurs, du temps, dû à la déréglementation complète du secteur ferroviaire, et puis, nous, on est les prennent otage là-dedans.
Robert Bellefleur, qui est porte-parole de la Coalition des citoyens de Lac-Mégantic. Restons en contact, M. Bellefleur. Là. Tenez-nous au courant de ce qui se passe, là, parce que on peut pas bardasser les citoyens du Québec de cette façon-là. Pas par Canadienne Pacifique, pas par personne. Il faut qu'on soit solidaire avec vous.
Heureusement que les médias nous soutiennent. C'est le seul rempart qui nous reste dans cette démocratie.
Lâchez pas. Merci de nous avoir parlé.
Merci, au revoir.
Culture et société.
Anaïs Gertin-Lacroix est avec nous. Anaïs, bonjour.
Allô, Benoît.
Alors, c'est le groupe gériatrique de l'heure, les Rolling Stones.
Exactement. Mais un groupe gériatrique, il y en a dans à peu près. Moi, Gimme Shelter, Benoît, là, dans le tapis, dans toutes mes listes de lecture. Ah, oh, c'est tellement... L'aimes-tu, toi, celle-là? Moi, c'est une de mes favorites des Stones.
Ouais.
Ah, je m'étonne pas de l'entendre. Et là, je te parle des Rolling Stones qui, cette semaine, Benoît, sont montés sur scène pour la première fois depuis le décès de Charlie Watts. Et ben évidemment, les gars ont tenu à lui rendre hommage. Donc là, je vais te faire entendre un extrait de ce que Mick Jagger a dit. Là, faut prendre en considération que ça a été capté avec un téléphone cellulaire dans une salle de spectacle. Donc l'audio n'est pas à son maximum. Mais n'empêche, c'est à Boston, sans anglais, mais en gros, il dit que, évidemment, Charlie Watts leur manque comme membre du groupe, mais aussi évidemment comme ami avant tout ça. Là, il fait un beau gros discours et il termine en disant à tout le monde, allez boire un verre en hommage à Charlie. Donc, je te fais entendre un extrait.
Night Fast, this is our first tour in 59 years that we've done without our lovely Charlie Watts. And we all miss Charlie so much. We miss him as a band, we miss him as friends.
Tu sais, Benoît, une première en 59 ans. Il y a bien des couples qui durent même pas. Ça, et c'est toute une relation, là, 59 ans.
Il y en a qui ont même pas cet âge-là.
Il y en a qui ont même pas de stand. Ben, écoute, j'en fais partie.
Pas moins.
Ah, non, oui. C'est complètement fou, tu sais. Puis là, on nous avait annoncé que la tournée qui vient tout juste d'entamer allait se faire sans Charlie Watts, lui qui avait des problèmes de santé. On nous avait dit justement, que c'était un guitariste qui a joué, mon Dieu, avec tous les groupes inimaginables, Steve Jordan, Neil Young, Bob Dylan, B.B. King, tu sais, Go All In, là, vraiment, ce qui a trait à une feuille, un CV là, extraordinaire. Donc, on savait qu'il allait pas être sur scène, mais il y a une différence quand même entre monter sur scène, Benoît, en sachant que, bon, Charlie Watts est vivant, mais il est à la maison, et monter sur scène, sachant que plus jamais il va revenir nous voir. Donc, c'est sûr que pour eux, ça a été, tu sais, selon moi, là, pour les vrais fans des Stones, ça fait partie des spectacles, tu sais, que tu dis, hey, moi, j'étais là. Tu sais, ils ont joué vraiment, excuse-moi l'expression, mais le set list, Let's Spend the Night Together, ils ont jamais commencé de l'histoire avec cette chanson-là. C'est avec ça qu'ils ont commencé. Ils ont joué des chansons qu'ils avaient jamais jouées. Tu sais, c'est vraiment, les gars se sont donnés à fond, en hommage à leur ami.
Hey, oui. Après, les Rolling Stones, ça va se résumer à Mick Jagger bientôt, hein. Keith Richards va pas. Est-ce que Keith Richards joue encore de la guitare avec ses gros doigts tordus?
Ben, écoute, tordu ou pas, tu peux jouer de la guitare, ben.
Ouais, je sais pas, même pas tordu, moi, je suis pas capable, tu sais, c'est pas mieux.
Moi, je te dis que, ben, je suis pas plus capable. Moi, j'ai aucun talent. Je chante mal, je danse mal, je fais tout brûler, je joue pas d'instruments là-dessus. Donc, la guitare, on laisse passer. Mais, tu sais, Mick Jagger, là, écoute, lui, seul sur scène, là, il est capable de nous faire danser, là. C'est incroyable, cet homme-là, là.
Ouais, ouais. Ben, on va voir combien de temps ça va durer encore. Mais bon.
Mais écoute, le plus longtemps possible, s'il vous plaît.
C'est ça. David Simon.
David Simon, qui est
Simon,
le
Simon, David la, Simon, plutôt.
David Simon?
Oui, Simon.
C'est toi qui me reprends là-dessus avec mon anglais.
Ouais, ouais. Non,
c'est toi, Benoît, fais-moi pas ça en
nom. S'il y avait deux M, ça serait Simon, mais là, c'est Simon.
Bon, mais David Simon, le créateur de la série The Wire, il n'y a pas si longtemps, Michael Key Williams, justement, qui jouait dans cette série-là, est décédé. Elle travaille sur une nouvelle série qui sera diffusée sur HBO. Puis cette série-là, Benoît, devait être tournée au Texas. Et là, suite à l'annonce du gouvernement avec les femmes qui, après 6 semaines de grossesse, ne peuvent se faire avorter, il a décidé, lui, de déplacer, en fait, le tournage, et disant que c'est au-delà de politique. C'est même pas politique, tu comprends? Il dit, moi, je peux pas, en tant qu'homme, exiger à des femmes de venir travailler dans un état où les femmes n'ont pas le contrôle sur leur corps. Mmh. Là, tu comprendras que ces médias sociaux, il y en a des grands champions qui ont commencé à sortir en disant, là, c'est quoi, est-ce que t'as l'intention que ton équipe se fasse avorter? Là, ça n'a aucun rapport, mais c'est le fait de savoir qu'il y a une loi comme ça qui empêche les femmes de décider de leur propre corps, de ce qu'elles ont envie de faire. Donc, c'est des gestes importants quand même comme ça. Là, tu sais, on sait là, à quel point ça coûte cher un tournage et de faire... Ben, moi, je suis pas au Texas. On s'en va ailleurs parce que je suis contre cette loi-là vraiment qui brime l'humain, qui brime les femmes. Moi, je félicite David Simon. Je trouve que c'est vraiment, il faut quand même avoir du cran pour faire ça.
Là. Ouais, ouais. Et, tu vois, ça nous manque pas, hein, les réseaux sociaux. En tout cas, moi, tu sais, quand tu vois des réponses, est-ce que vous comptez vous faire avorter? Faut-tu être niaiseux de pas comprendre le principe?
Faut être calme, Benoît. Non.
Ah, ouais, bravo. Restez ensemble.
Je suis tout à fait en accord avec toi, mais c'est ça. Mais sa réponse, quand même, a été très claire. Ça n'a aucun rapport avec ça. C'est vraiment que les femmes ont le droit de choisir ce qu'elles veulent faire avec leur corps. Donc, une étoile pour David.
Ça s'arrête là. Parlant de femmes, le nouveau James Bond, une femme, vraiment?
Cette question-là, là, être ou ne pas être, telle est la question. Bond, James Bond, femme ou homme, là, je veux dire, ça fait depuis qu'on sait que Daniel Craig va quitter le personnage. On sait que c'est son dernier film, 25e de la saga. On a posé la question, ça fait 2 ans, je pense, qu'on se pose la question, est-ce qu'une femme pourrait remplacer James Bond? Et là, ce qui est particulier, c'est que Barbara Broccoli, qui est la productrice en 2020 quand même, Benoît, ça date pas de 2 jours, là, elle a pris la parole disant, James Bond va rester un homme, point final. C'est un homme, il va rester un homme, ça s'arrête là. Et Daniel Craig, pour sa part, n'avait jamais vraiment voulu prendre la parole à ce sujet-là. Et là, Radio Times, qui est un balado, on lui a posé vraiment la question. On sait que James Bond va sortir. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à perdre. Il peut se mouiller un peu plus. Mm. Alors, lui a dit que les femmes et les personnes de couleur devraient avoir des rôles aussi importants que James Bond, mais que non, James Bond, selon lui, ne devrait pas être remplacé par une femme. Donc, il dit, tu sais, James Bond, c'est James Bond, point final, ouais. Et on devrait créer. Puis ça, moi, je suis en accord avec lui. Tu sais, demain, tu m'amènes une femme, on dirait dans ma tête, James Bond, c'est James Bond, c'est un peu comme si demain, Catwoman devenait un homme. Non, tu sais, c'est un personnage masculin. Créons des personnages aussi importants pour les femmes.
Ouais. Trevor Noah a fait un spectacle il y a 5-6 ans là-dessus. Et Trevor Noah, l'animateur du Daily Show, qui est est d'origine sud-africaine, sauf erreur, a expliqué pourquoi James Bond pouvait pas être autre chose qu'un homme blanc écossais. Puis là, il expliquait l'origine du personnage. Puis là, à un moment donné, il disait, arrêtez là. C'est pas ça le personnage. C'est un homme qui vient de l'Angleterre, de l'Écosse, tu sais. Puis il a fait la ligne. Puis là, mais ce que Daniel Craig dit, c'est intéressant. Créons des personnages pour les autres personnes, pour autre chose que des hommes blancs héros.
Ben exactement. Il devrait, tu sais, il dit clairement, il devrait simplement y avoir des meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. C'est ça la question. Mais là, fameux James Bond qu'on devrait, faut avoir de la diversité. Puis je suis pour ça, mais ça reste un personnage, je trouve, qui, c'est James Bond, c'est un gars, point final. Moi, rendu là, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, je m'en fiche, mais c'est un gars, tu comprends? Au même titre qu'un personnage féminin, c'est ça, soudainement, on me dirait, ben c'est plus une fille, c'est rendu un homme, on dirait que dans ma tête, c'est une femme. Tu sais, c'est ça.
À moins que ça soit sa fille. Sa fille illégitime, là, Janine Bond, là, tu sais, qui débat, en tout cas.
Janine Bond, non, j'aime ça.
puis Nirvana, avant qu'on se quitte.
Oui, mais elle va pas remplacer James Bond, tu comprends? Tu me feras pas croire que c'est James Bond, ça va être la fille de James Bond.
Ouais, mais elle va être aussi malfaisante que lui. Alors, Nirvana?
Hey, pour finir rapidement, parce que bon, on s'en est parlé, toi et moi, quelques reprises en raison de cette de pédopornographie là qu'on accusait Nirvana. Mais là, c'est aujourd'hui, officiellement, 91, que Nirvana nous présentait l'album Nevermind. Donc, 30 ans, l'album qui a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Donc, je veux au moins qu'on se laisse avec Nirvana, Lithium, qui est une de mes favorites, ne serait-ce que pour faire un petit clin d'œil à Kurt Cobain.
Super. Merci, Anaïs. À demain.
Salut! Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah.